Merci d'être venu, d'abord, nombreux, en ces périodes compliquées. On est très heureux d'accueillir Jean Lebrun à la droguerie, encore une fois. Et cette fois-ci, on l'accueille pour un nouveau livre, Ici Saint-Pierre et Miquelon, qui est sorti il y a quelques semaines, on va dire. Et ma première question, ça serait d'abord, quel rapport entre Saint-Malo et Saint-Pierre de Miquelon, et quel rapport entre Jean Lebrun et Saint-Pierre de Miquelon?
Vous êtes sans doute nombreux à savoir qu'il y a une habitude, un lien entre les Malouins et les Saint-Pierrais qui remonte à très haut. Pardon ? Saint-Pierre. Oui. Ah, avec les Saint-Pierrais. Oui, mais s'il fallait parler correctement, il faudrait dire les Saint-Pierrais, les Saint-Pierraises, les Miquelonais et les Miquelonaises. Oui. D'ailleurs, le lien, il a commencé plutôt avec Miquelon parce que le premier établissement administratif français, c'était à Miquelon, où le gouverneur a résidé provisoirement. On célèbre là-bas, à Saint-Pierre et Miquelon, la venue de Jacques Cartier, qui s'est posé un instant au retour du Canada dans l'archipel, mais ce ne sont pas les Malouins qui ont découvert Saint-Pierre et Miquelon. Ce sont peut-être les Basques avant les Malouins, et avant les Basques, les Indiens. Il y a un endroit extraordinaire à Miquelon, une ancienne étable pour quarantaine, où on avait imaginé d'installer les animaux en quarantaine, parce que les Iliens, les archipéliens, ils tirent profit de toutes les opportunités, la quarantaine peut en être une. Et en fait, cette étable n'a quasi jamais été utilisée pour la quarantaine, mais on trouve au fond de l'étable, c'est complètement invisible pour le public, un canoë, Micmac, qui est venu à Miquelon vers l'an 2000, exactement sur le modèle, le trajet, et avec un type de bateau qu'on connaissait dans l'époque de l'Indien archaïque. Donc il y avait des Indiens qui venaient pêcher à la baleine, qui venaient aussi sans doute célébrer les cultes à Miquelon et à Saint-Pierre. Et les Micmacs, alliés des Français dans la guerre du Canada, ont gardé l'habitude très intermittente de venir à Miquelon. Le dernier Micmac avec son canoë, c'était vers l'an 2000, et puis le même chef Micmac qu'on avait perdu de vue, qui ne répond pas au téléphone ni aux mails, est revenu. Je crois il y a 2 ans, très très brièvement aussi pour voir l'état de son canoë. Alors les Malouins ont été nombreux à venir faire la pêche à partir du moment où la morue est devenue l'objet d'un commerce international, et ils se sont établis dès le XVIIe siècle de manière un peu permanente, encore plus au XVIIIe siècle. On dit souvent que Saint-Pierre et Miquelon c'est le vestige de l'Empire français au Canada, c'est pas tout à fait exact, parce que à l'époque où les Français tenaient le Canada, ils s'occupaient très peu de Saint-Pierre et Miquelon. Il y avait que quelques Malouins, en effet, qui étaient attachés au territoire. Et quand le Canada a été perdu par la France en 1763, la France a exigé, par compensation, de garder un poste important qui lui permettait de participer au grand commerce mondial des pauvres qui s'était organisé autour de la morue. Donc Saint-Pierre et Miquelon est devenu une possession importante pour les Français à partir de ce moment-là. Les Malouins y sont restés. Simplement, les Anglais ont disputé très régulièrement aux Français cet archipel dont ils n'admettaient pas d'avoir reconnu la souveraineté avec le traité de 1763. Donc à 3 reprises, 1778, 1700, la guerre d'indépendance des États-Unis, 1788, je crois, et 1793, les Anglais ont pris Saint-Pierre et Miquelon et ont déporté la population, pillé, incendié, détruit les quelques habitations permanentes qui étaient là, et déporté la population. Et une population, c'était quelques centaines de personnes. Parmi les gens qui étaient là, à Miquelon, il y avait des Acadiens qui avaient déjà subi des déportations plus massives de la part des Anglais. Et ces déportés Saint-Pierrais et Miquelonais, Saint-Pierraises et Miquelonaises, se sont parfois installés à Saint-Malo et à Saint-Servan. Il y a une grande famille qui s'appelle les Dagor. Le Dagor mythique, l'ancêtre, il a été déporté 3 fois. il est venu à Saint-Servan et il a eu des enfants là. Et quand en 1816, après le traité de Vienne, de nouveau la souveraineté française est reconnue officiellement par toute la communauté européenne sur Saint-Pierre-et-Miquelon, le nommé Dagor et puis d'autres déportés qui s'étaient installés ici, ben ils sont repartis en bateau. L'expédition de retrouvailles, de recolonisation de Saint-Pierre-et-Miquelon est d'ailleurs partie de Saint-Malo. Et un ou deux des bateaux de 1816 ont fait naufrage au large de Saint-Malo. Donc voilà le lien entre Saint-Pierre et Saint-Malo qui est renouvelé à chaque campagne de pêche ensuite, puisque on partait pour Terre-Neuve, on partait d'ici notamment, on faisait relâche à Saint-Pierre, on y vendait la première prise, quand on avait déjà réussi à remplir le bateau de morue jusqu'à Rabord. C'est par dizaines de millions que les morues frayent dans les bancs de Terre-Neuve. Comment ?
J'ai une ancêtre.
Vous avez une ancêtre Micmac. Et moi, j'ai juste des ancêtres Terre-Neuva. Donc, on venait pour la première déposer la première prise. Et si on n'avait pas de première prise, on venait quand même pour l'avitaillement, le ravitaillement, pour réparer. Il y avait des forges, il y avait une usine à cirer, on achetait du biscuit, et il y avait les cafés dansants de Saint-Pierre, parce qu'autant les Français, les Malouins notamment, mais pas seulement eux, n'aimaient pas l'escale à Terre-Neuve, qui leur était hostile, qui est toujours resté hostile à Saint-Pierre-et-Miquelon. À Terre-Neuve, on comprend pas que il y a une possession française à 35 ou 50 kilomètres au large des côtes de Terre-Neuve. Autant on n'aimait pas l'escale à Terre-Neuve, autant l'escale à Saint-Pierre était hospitalière, était plaisante. Et il y a un film qui raconte ça très bien, une grande série télévisée de 5 ou 6 épisodes d'1h40, que quelques-uns d'entre vous connaissent peut-être, signé Hervé Ballet, réalisateur né à Saint-Coulon, grand réalisateur de télévision. Ça s'appelle « Entre terre et mer ». Et les deux points qu'on retrouve sans cesse dans cette série, les deux lieux de référence, c'est la pointe du Minga à Saint-Coulon, d'où les femmes, dit Hervé Ballet, attendaient le retour de leurs hommes, qu'elles voyaient dès que le convoi rentrait de Terre-Neuve une fois la campagne finie. Et puis l'autre lieu, c'est un café dansant, très plaisant, enfin, avec plein de femmes, de Saint-Pierre. Les Malouins redoutaient les bancs, les campagnes de pêche étaient meurtrières, vous savez ça tous, mais ils aimaient Saint-Pierre. Et ils racontaient pas tout ce qu'ils avaient fait comme frasque à Saint-Pierre. Il y a un très beau livre sur le métier de Terre-Neuve qui s'appelle « Le grand métier » de Jean Rechet. C'est dans la collection Terre humaine. C'est considéré comme le plus grand livre sur le sujet. Et on me racontait ceci à Saint-Pierre. Un jour, Jean Rechet, vieux, retraité, vient, il emmène sa femme à Saint-Pierre. Il y a un congrès de Terre-Neuve. Ils aiment bien se retrouver. Il y a une association de Terre-Neuve, un musée associatif de Terre-Neuve ici. Alors une fois, ils se sont retrouvés à Saint-Pierre et ils avaient le privilège de pouvoir emmener leurs femmes. Et les femmes, quand même, se doutaient bien qu'à Saint-Pierre, il s'était passé beaucoup de choses. Et donc, le congrès mène son train et Madame Rechet va se promener dans Saint-Pierre, inspecte le bourg. C'est très dense, c'est tout petit, on en a vite fait le tour. Et puis, de retour, elle dit à son mari « Je suis contente, j'ai vu personne qui te ressemble. » Voilà.
Et alors, ce livre, ici Saint-Pierre et Miquelon, se concentre sur la période de la Deuxième Guerre mondiale. Et pourquoi De Gaulle s'intéresse à Saint-Pierre et Miquelon et en fait un point de tension tout de suite ?
Pour le général De Gaulle, tout territoire français était un territoire que les Français libres devaient diriger et contrôler. C'était le cas pour les comptoirs français de l'Inde, qui se sont ralliés un peu forcés parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix dès l'automne 1940. C'est le cas de Tahiti, qui s'est rallié difficilement avec un référendum un peu tendu, parce qu'à Tahiti, il y avait des partisans de Vichy, comme le grand navigateur Alain Gerbaud, des partisans de Gaulle. Et Saint-Pierre et Miquelon était un cas qui intéressait particulièrement le général de Gaulle, cependant. Parce que tout de suite, les Saint-Pierrais, beaucoup moins les Miquelonais, alors je laisse entre parenthèses les Miquelonais, c'est pas du tout pareil. Rien n'est plus loin de Saint-Pierre que Miquelon. Et les Miquelonais, ils aiment pas les Anglais. Et puis ils aiment pas qu'on les emmerde. Et ils voient pas pourquoi ils devraient entrer dans la ronde du monde, quoi. Ils sont assez isolationnistes. Donc les Saint-Pierrais ont été nombreux à demander l'automne 40 le ralliement à la France libre. Il faut imaginer que il y avait l'été et l'automne 40 après la défaite française, des dizaines de bateaux morutiers qui étaient là dans la baie de Saint-Pierre. On pouvait aller d'un bateau à l'autre et traverser la baie dans tous les sens. Ils étaient à touche-touche. Et les marins ne savaient que faire. Et l'administrateur nommé par le gouvernement français, qui va finir par devenir vichyste, il était extrêmement embarrassé. Il avait 6 gendarmes à sa disposition. Et il y avait des dizaines de bons hommes qui attendaient leur paye, qui ne venaient pas, qui attendaient la possibilité de rentrer, par exemple à Saint-Malo, et à qui des bars accueillants ouvraient les bras. Donc c'était très chaud, on se bagarrait beaucoup, notamment le dimanche. Les gendarmes ne savaient comment maintenir l'ordre. Il y avait un vieil aviso qui s'appelait le Jeanne d'Arc, un vieil aviso à charbon qui datait de la guerre précédente et qui de temps en temps pointait ses canons sur le quai du port et d'où descendaient des fusiliers marins qui étaient chargés de repousser la population des marins qui, dans leur majorité, voulaient le ralliement à la France libre, notamment les Malouins. Sur un bateau qui s'appelait l'Anne de Bretagne, qui était un peu le pilote de la France libre à Saint-Pierre. Donc vous aviez d'un côté beaucoup de Saint-Pierrais qui demandaient le ralliement, pas mal de jeunes qui passaient à Terre-Neuve, en profitant du brouillard ambiant, parce qu'il y a un brouillard constant, notamment au mois de juillet, à Saint-Pierre, et c'est le même brouillard sur les Saint-Pierrais et les Newfoundlanders, les Newf, les habitants de Terre-Neuve. Et l'administrateur ne savait que faire, mais il était très habile, il était lui-même ancien combattant, il a réussi à épuiser les velléités de ralliement des Saint-Pierrais, et puis il a fini par réussir à éloigner les bateaux morutiers. Mais plusieurs sont partis direct pour l'Afrique, et la légende veut, enfin ce n'est pas une légende, que l'équipage malouin Anne de Bretagne ait baissé culotte et salué du cul les marins de la marine nationale de l'aviso Jeanne d'Arc. Donc le général de Gaulle a enregistré ce qui s'est passé à Saint-Pierre, n'avait pas au départ les moyens d'intervenir et il a décidé plus tard, en 1941, à l'automne 1941, il a décidé de lancer ce que j'ai appelé une minuscule armada, c'est-à-dire le gros et impotent sous-marin Surcouf qui avait échu à la France libre, mais qui était très encombrant plus qu'autre chose, plus qu'utile, et puis 3 petites corvettes, et il a délégué au chef des forces navales de la France libre, l'amiral Muselier, le grand-père de l'homme politique dont on parle tant cette année, le capitaine de Villefosse, qui était un homme assez particulier parce que c'était un aristocrate communiste, ou quasi-communiste, et Alain Savary, qui n'était pas encore socialiste à l'époque, qui était un tout jeune homme de 21-22 ans, qui va devenir ensuite gouverneur de Saint-Pierre, élu de Saint-Pierre sous la 4e République, ministre sous la 4e République et ministre de François Mitterrand au moment de l'arrivée de la gauche au pouvoir de 81 à 83. Et donc cette minuscule armada est partie, incognito, pour rallier Saint-Pierre et Miquelon. C'était un truc épique parce que c'était l'hiver. Les conditions de mer étaient terribles, ils sont partis de l'Écosse. Les corvettes étaient des corvettes qui avaient été prêtées par un système de location prêt, de leasing, si vous voulez, à la France libre, mais elles étaient à moitié achevées. Et puis elles étaient extrêmement brinque-ballantes. On pouvait pas se tenir debout, on pouvait pas manger chaud. L'amiral Muzoli a perdu sa casquette. Il est arrivé avec une casquette de gamin de banlieue à Saint-Pierre et Miquelon. Ils ont produit un effet de surprise. Et le gouverneur vichiste, qui avait de l'imagination pour trouver des moyens de retarder les échéances, il n'avait que 6 gendarmes. Alors le gendarme Zézette, le chef des gendarmes, a demandé « Monsieur l'administrateur, qu'est-ce qu'on fait ? On tire ?» L'administrateur a dit « Bah, évidemment, on ne tire pas, parce qu'ils étaient quand même quelques centaines d'hommes, fusillés marins, jeunes et armés, à débarquer. » Et c'était le jour de Noël 1941. La France libre a cru avoir fait un très beau cadeau au monde libre, mais les Alliés n'ont pas entendu le message de la même manière que le général de Gaulle voulait le faire entendre.
Et alors ce muselier organise un vote pour ou contre la France libre.
Oui, la France libre n'est pas naturellement démocrate. Le vocabulaire démocratique n'est apparu que progressivement chez le général de Gaulle. Et il est apparu dans un grand discours à l'Albert Hall en novembre de l'année précédente. Et l'amiral Muselier, lui, qui n'est pas l'amiral idéal pour le général de Gaulle, il présente mal, il a une réputation de républicain, il n'est pas aimé. Dans la royale, il n'a pas du tout l'aspect que doit avoir un amiral de la royale. C'est le grand ennemi de Darlan, lequel a sa villa à Saint-Malo. À l'époque, et c'est physiquement tout l'inverse de Darlan. Il est voûté, sa silhouette est en S, il y a du mégot de cigarette qui tombe sur le plastron. Il a perdu sa casquette quand il arrive à Saint-Pierre. Il est plus spontanément démocrate. C'est un enfant de Marseille du peuple. Un enfant du peuple de Marseille est plus spontanément démocrate sans doute que le général de Gaulle. Et c'est lui, je pense, qui a l'idée d'organiser un plébiscite. Parce qu'il comprend qu'arrivant comme ça au déboté en décembre 1940 à Saint-Pierre-et-Miquelon, il va contrarier les États-Unis. Les États-Unis viennent d'être attaqués par le Japon. Les États-Unis doivent entrer en guerre. La guerre va s'étendre au Pacifique. Elle devient mondiale, absolument industrielle. Roosevelt déploie des plans qu'il fait approuver par Churchill, qui vient d'ailleurs le voir à la Maison Blanche à ce moment précis, en décembre 1941. Roosevelt ne comprend pas pourquoi il y a ce caillou dans sa chaussure, cette histoire rocambolesque, une tête d'épingle minuscule de 142 km², à l'époque 4500 habitants. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et Roosevelt n'aime pas les Français libres. Il les considère comme des gens qui sont divisés par nature, des intrigants, et il considère le général de Gaulle comme un figurant de deuxième ordre. Muselier sait qu'il va y avoir des difficultés avec les États-Unis qui n'ont pas été prévenus et qui, s'ils avaient été prévenus officiellement, auraient refusé le ralliement à la France libre. Alors, il a cette idée. On va faire un plébiscite auprès de la population. Le plébiscite, il est rédigé de façon un petit peu oiseuse. Est-ce que vous êtes partisan de la collaboration avec l'Axe ou est-ce que vous êtes partisan du ralliement avec la France libre ? Le plébiscite ne donne pas un résultat très positif à Miquelon, où les Miquelonais s'abstiennent pour une grande part. Enfin, le résultat est quand même positif à Miquelon et à Saint-Pierre, il est extrêmement favorable à la France libre. Et il est très habile, le muselier, il a ouvert le référendum à tous les hommes, il n'y a pas question de faire voter les femmes, mais il a ouvert le référendum à tous les hommes de plus de 18 ans. C'est-à-dire que dans son esprit, il fallait qu'aussitôt après avoir voté oui, quand on était jeune, on s'inscrive dans les rôles de la France libre et qu'on la rejoigne. Donc quand, le secrétaire d'État américain, plus encore que le président Roosevelt, dit « c'est quoi cette histoire ? C'est quoi cette soi-disant France libre qui veut libérer Saint-Pierre et Miquelon ?» Quand les Américains font valoir le fait qu'il ne doit plus y avoir de colonies dans les territoires des deux Amériques et que c'est eux qui se refusent à être colonisateurs, mais qui en ont quand même le comportement sans le dire, qui doivent réguler les choses dans les deux continents. Quand le président Roosevelt et le département d'État disent ça, Muselier peut opposer le droit à l'autodétermination des peuples et dire si petit soit-elle, la population de Saint-Pierre a choisi le ralliement à la France libre. Néanmoins, pendant des semaines, ça va chauffer entre la France libre et Roosevelt. Heureusement que Churchill est là pour conférer avec Roosevelt. Bon, il calme un peu les choses. Il avait plus ou moins lui donné son accord à l'expédition. Mais c'était avant Pearl Harbor, c'était avant que Roosevelt ne prenne la main. Bon, et puis la presse américaine soutient la France libre et dit « Mais c'est quoi ce soi-disant secrétaire d'État qui explique qu'il y a une soi-disant France libre ?» Et le secrétaire d'État va beaucoup en vouloir au général de Gaulle d'avoir réussi à passer ce cap. Ils vont trouver un accord dont je vous passe le détail, à la suite duquel la France libre va pouvoir rester. Et c'est Alain Savary, pas Muselier, qui rentre à Londres et est appelé à d'autres aventures. C'est Alain Savary qui, à 22 ans, devient administrateur de Saint-Pierre-et-Miquelon et qui va y jouer un beau rôle. Enfin, c'est un très beau personnage, Alain Savary. Ça n'a pas aidé, l'affaire de Saint-Pierre-et-Miquelon, les relations entre les Américains et la France libre, qui auraient toujours été presque constamment détestable. Quand enfin ils vont se voir, Roosevelt et De Gaulle à Alger, après le débarquement américain de novembre 1942, derrière les doubles rideaux, en dessous des doubles rideaux, on voit des chaussures, et c'est les gardes du corps de Roosevelt qui sont dissimulés dans l'embrasure de la fenêtre, au cas où le général De Gaulle voudrait attenter à la vie ou à l'honneur du président américain.
Alors, on ne va pas faire tout le livre qui va jusqu'à la fin de la guerre et qui est aussi plaisant à lire que c'est plaisant d'écouter Jean. Ce qu'on sent, c'est l'amour des personnages, l'amour des gens et le fait que chacun a son destin en main. J'ai l'impression que c'est ça que vous voulez raconter. Ouais.
Oui, chacun a son choix, quoi. C'est infiniment petit, Saint-Pierre. Le gouverneur vichyste dit aux jeunes gens qui veulent partir. Il les convoque, un par un. Un chef administrateur à Saint-Pierre, c'est toujours le cas aujourd'hui, il faut veiller, comme le lait sur le feu, sur chacun. Parce que ça peut chauffer. L'évêque dit, en février en particulier, c'est une boîte d'allumettes. Tout peut flamber. Donc l'administrateur de Vichy convoque les jeunes qui sont prêts à rejoindre la France libre. Il montre le planisphère. Il y a toujours des planisphères, vous savez, dans les bureaux des administrateurs des confettis de l'Empire. Et regardez, dit-il aux jeunes, ces chieurs de mouches là, c'est nous. Alors qu'est-ce que vous allez faire en partant à l'aventure? Vous allez vous compromettre? Ben, l'infiniment petit peut avoir un effet papillon sur l'infiniment grand, et l'infiniment grand peut se refléter dans cet archipel qui a la taille d'une tête d'épingle, et chacun a en effet la responsabilité de ses actes. Alors, c'est une colonie. Bon, c'est une colonie, sans indigènes colonisés. Alors, les Saint-Pierrais, les Miquelonais vous disent « Ouais, mais c'est nous les Bretons d'origine, c'est nous les Basques d'origine qui ont été colonisés par la métropole, qui sont réduits à un statut de colonisés, bon, qui payons les erreurs de la métropole. » Bon, enfin, c'est une colonie où il n'y a pas d'indigènes colonisés, et c'est une colonie où chacun peut décider ou non de partir à la guerre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'inconvénients au statut de colonie. Il y a cet avantage pour les citoyens français qui habitent dans une colonie de ne pas pouvoir être mobilisés. Enfin, ils l'ont été à la fin de la Première Guerre mondiale. Ils vont l'être à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais seulement à partir de décembre 1944, à la toute fin. Chacun décide, est-ce que j'entre dans la France libre ou est-ce que je n'entre pas dans la France libre? Alors après, évidemment, quand on décide de ne pas entrer dans la France libre, on doit supporter un certain nombre d'inconvénients. On peut vous casser vos fenêtres. Il n'y a pas de volet à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et si on vous casse les fenêtres, l'hiver, il fait extrêmement froid. On peut vous moquer à l'école, on peut vous taper dessus nuitamment. Mais enfin, ils sont quand même plusieurs centaines à avoir refusé, jusqu'à la mobilisation exceptionnelle de décembre 1944, d'entrer dans les rangs de la France libre. Et les autres, bah, ils ont pris le parti, souvent à 18, 19 ans, tout de suite après le référendum, de monter dans le sous-marin Surcouf, de monter sur les corvettes, et d'ailleurs, pour beaucoup d'entre eux, pour plusieurs dizaines d'entre eux, de mourir très vite, le sous-marin Surcouf ayant coulé au début de 1942, et deux des trois corvettes de la minuscule armada qui ont rallié l'archipel à la France libre ont eux aussi coulé. Et chacun oui, prend ses responsabilités. Et le plus étonnant, c'est Alain Savary. Parce que à peine l'amiral Muselier est-il rentré à Londres, début 1942, qu'il dit au comité de la France libre, dont il est membre, au comité dirigeant de la France libre, ça s'est très mal passé tout ça. On aurait dû prévenir les alliés, on n'aurait pas dû affronter comme ça les Américains, risquer une crise, risquer que les Américains prennent à l'abordage l'archipel. Alors moi, je veux bien continuer à faire des missions de ce genre. Le général de Gaulle lui demande de rallier Madagascar, mais sans conflit avec les alliés. Le général de Gaulle dit « la France est la France, nous n'avons pas besoin de l'accord de nos alliés, Madagascar est français », etc. Et l'amiral Muselier entre en dissidence. Et lui prend la responsabilité de vouloir retourner les Français libres contre le général de Gaulle. Et voilà l'amiral, je vous ai dit qu'il était de tempérament de gauche, voilà l'amiral qui propose à ses officiers une grève générale. Et pendant un mois, ça chauffe aussi à Londres entre Français libres. Et puis, pour répondre à votre question, chacun doit prendre ses responsabilités dans l'archipel. Il y a ce pauvre Alain Savary, 22 ans, aide de camp de l'amiral Muselier, très proche de l'amiral Muselier, formé par l'amiral Muselier. Il était là en Angleterre dès le 17 juin 1940. Il n'a pas eu besoin du général de Gaulle, il est allé de lui-même. Il a 22 ans, il a été nommé administrateur de Saint-Pierre-et-Miquelon, mais son chef direct lui explique qu'il faut se retourner contre le général de Gaulle. Et il hésite, hein, Alain Savary. Et il trouve une belle formule, enfin, il explique que la France libre, ce n'est pas une vassalité, ce n'est pas un système de seigneurs et de vassals, c'est, dit-il, une coopérative. Et c'est au nom de mon esprit coopérateur, je suis membre d'une coopérative, et ben je reste dans la coopérative. Et il choisit d'être avec le général de Gaulle. Et le général de Gaulle, d'ailleurs, aura toujours beaucoup d'estime, même quand Alain Savary deviendra un leader socialiste. Il était le premier secrétaire du nouveau parti socialiste en 1970. Le général de Gaulle aura toujours beaucoup d'estime pour Alain Savary. La petite histoire dit que Madame de Gaulle aurait bien marié Alain Savary avec Geneviève de Gaulle, qui n'en pouvait mais. Alors, chacun prend ses responsabilités, alors que on est hors de l'histoire dans un archipel comme celui-là. On est hors du mouvement du monde. On peut se penser protégé du mouvement du monde. La guerre vient vous rejoindre. Et dans la guerre, des guerres intestines, et il faut prendre parti. Sans que le monde entier s'en préoccupe, d'ailleurs, sans qu'on le sache, parce que ça se passe à Saint-Pierre-et-Miquelon dans le brouillard. Et alors, votre père, madame ?
C'était lui le pilote qui a rentré l'amiral Muselier.
Ah oui ?
Oui, d'accord. Monsieur Francis Gervin, oui. Dont vous parlez oui, dans votre livre.
Il y a une photo de lui dans un musée. Voilà. Ouais. Ouais.
La période dont vous parlez, je l'ai vécu.
Oui, oui. Non, c'est drôle votre histoire parce que j'ai été trois fois à Saint-Pierre, mais je n'ai pas pu y retourner une dernière fois l'été dernier parce que. Il y a des avions directs expérimentaux et rares pour Saint-Pierre, et le mien a été supprimé par le préfet pour les raisons sanitaires. Donc il y a un certain nombre de choses que je n'ai pas pu vérifier. Et dans le musée Archipelitude, à Lille, aux Marins, il y a une photo d'un monsieur que j'ai décrit dans la première version de mon livre, comme s'accrochant au basque du général de Gaulle. J'avais pensé qu'il était pris de boisson. Et j'envoie ça à un historien de Lille qui s'appelle Dérible, qui a fondé ce musée. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous avez complètement inventé ça. C'était pas, je crois, le pilote qui a amené Muselier dans le port, mais c'était un homme qui conduisait sur son Doris les marins, les pêcheurs, les jeunes gens qui voulaient rejoindre Terre-Neuve. Et c'était un des héros de la France libre, comme votre père, le pilote. Les trois corvettes. Voilà. Et vous avez vécu à Saint-Pierre?
Comment?
Vous avez vécu à Saint-Pierre?
Quand je suis partie, j'avais 20 ans.
Donc ah oui?
J'ai vécu 20 ans, là,
ah oui,
toute cette période-là.
Ah, vous avez vécu cette période?
Vous connaissez mon beau-frère qui s'appelait Élie Clairon.
Oui, bah oui, et qui venait souvent à Saint-Malo. Oui, il y a aussi des Saint-Pierrais qui viennent toujours à Saint-Malo. Et Élie Clairaut, il partageait son temps entre Saint-Servant.
Et à la retraite, il retrouvait les chalutiers avec les capitaines qu'ils avaient connus.
Voilà, oui. Et avec sa femme, il faisait de l'histoire, d'ailleurs.
Et c'est pour ça que votre livre, là...
Bon, ça va, alors.
Et alors, juste pour terminer, j'ai lu que vous œuvriez pour faire candidater Saint-Pierre-et-Miquelon au patrimoine mondial de l'humanité.
Oui, alors,
c'est vrai?
C'est toute une affaire. Et ça concerne aussi, dans l'idéal, en tout cas Saint-Malo. Saint-Pierre-et-Miquelon est dans une situation économique difficile. Tout s'est effondré. Dans les années 1880, toute proportion gardée, c'est comme le charbon dans le Nord, c'est comme la sidérurgie en Lorraine. La pêche a été excessive dans les années d'après la Deuxième Guerre mondiale, où le monde entier est venu pêcher à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les Français, les Basques, les Normands, ils étaient dépassés de loin par les Portugais qui pêchaient encore de manière traditionnelle, par les Espagnols qui étaient redoutables marins, extraordinaires, par les Polonais, les Allemands de l'Est, les Soviétiques, les Américains, les Vénézuéliens, les Japonais. Bon, on a surexploité. Dans les années 1980, tout s'est effondré. Et maintenant, l'archipel est sous perfusion. Il n'a jamais été aussi prospère d'apparence. Les maisons n'ont jamais été aussi confortables, briquées, entretenues. Sauf que on vit de l'État. Il y a plusieurs centaines d'employés à l'hôpital. On ne sait pas quel est le poids du secteur public. Madame Girardin, qui est l'élue de Saint-Pierre et ministre perpétuelle depuis près de 10 ans maintenant, dit que c'est 46%, mais enfin, c'est sans doute davantage. La majorité de l'emploi, c'est public. Et ce qui n'est pas public, ça dépend du public. Les entreprises de BTP, elles répondent aux commandes de l'État ou aux commandes des particuliers, fonctionnaires ou employés des entreprises publiques. Et donc, on cherche des pistes pour rebooster, redynamiser l'état d'esprit des Saint-Pierrais qui voient leur population de nouveau décliner, qui voient les jeunes s'en aller et qui ne sont pas du tout optimistes sur leur avenir. En plus, ils voient le dérèglement climatique qui est particulièrement sensible à Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors, une des idées, c'était... c'est un lieu central dans le monde, pas tellement à cause de la guerre, pas tellement à cause de la prohibition que les Saint-Pierrais contournaient au moment de la prohibition américaine, mais c'est un lieu mondial à cause du commerce de la morue. Pourquoi est-ce qu'on n'organiserait pas une candidature de l'archipel au patrimoine mondial de l'humanité au titre de hub du commerce mondial du pauvre qu'est la morue? Et ça pourrait se combiner avec qui? Alors, le golfe du Saint-Laurent, parce que Saint-Pierre est au débouché du golfe du Saint-Laurent, mais enfin, les Canadiens et les Saint-Pierrais s'entendent modérément bien. Et les Terre-Neuviens et les Saint-Pierrais très mal. Ça pourrait se faire avec Saint-Malo. Ça pourrait se faire avec d'autres ports français. Il y avait un évêque à Saint-Pierre-et-Miquelon. Maintenant, l'évêque, c'est l'évêque de La Rochelle. Donc, on a été quelques-uns à porter cette idée. Et puis, la ministre, Madame Girardin, la porte. Et puis, les préfets successifs, puisqu'ils dépendent de la ministre, la porte. Mais, imaginez un archipel avec deux îles, pour faire simple, 6000 habitants, deux maires, Saint-Pierre, Miquelon, une collectivité territoriale, avec un président de collectivité territoriale, un député, un sénateur, et une ambiance politique qui a toujours été organisée sur un principe, on ne laisse pas à quelqu'un la totalité du pouvoir et on contrebalance le pouvoir dominant par un contre-pouvoir. Donc, faire l'unité autour de l'idée de candidature consensuelle, universelle au patrimoine mondial de l'humanité, vous qui avez vécu 5 ans à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est un défi extrême. Bon, alors on peut pas dire que la candidature avance beaucoup, mais enfin cette candidature, elle est peut-être pas faite pour aboutir, elle est faite pour redonner des possibilités de penser à l'avenir au Saint-Pierre. Et puis elle a eu le mérite de faire inscrire et classer au monument historique un certain nombre de bâtiments de Saint-Pierre, parce que le conservateur des monuments historiques de Bretagne, qui s'appelle Henri Masson, qui veille sur les maisons de Saint-Malo, les Malouinières, s'est pris d'amour pour Saint-Pierre-et-Miquelon et en a fait un apanage personnel. Alors il est directeur des, enfin, conservateur des monuments historiques de Bretagne et à titre personnel, de Saint-Pierre-et-Miquelon, et il a réussi à faire inscrire et classer avec le concours de Gérardin je ne sais combien de bâtiments. La cathédrale en béton de 1900, là, qui menace de, dont les tribunes menacent de s'écrouler, que vous connaissez, la forge et le bailli qui ne fonctionne plus depuis des décennies, la tombe de la femme du gouverneur qui est enterrée à Miquelon et qui est morte dans les années 1770, enfin des choses qui ici ne retiendraient pas beaucoup l'attention, ont beaucoup d'importance dans cet archipel où l'histoire est relativement courte, si on accepte évidemment l'épopée des Indiens archaïques, et où les bâtiments souvent étaient construits avec beaucoup de bois et prenaient facilement feu.
Je crois qu'actuellement, on a une ministre qui fait quand même beaucoup pour son pays.
Elle fait oui, elle fait campagne beaucoup pour... Oui, elle fait sans... Oui, elle fait campagne pour Saint-Pierre, et elle fait parler de Saint-Pierre, et moi je fais parler de Saint-Pierre le plus possible, donc on a, je ne sais pas si la deuxième a été diffusée, mais il y a une émission de France Inter qui s'appelle Place du Marché, qui était consacrée à Saint-Pierre-et-Miquelon il y a peu de jours, le premier épisode, Saint-Pierre, et le deuxième épisode bientôt, je ne sais pas quelle heure c'est, sur Miquelon, mais c'est podcastable, enfin, je crois que c'était bien fait.
Merci beaucoup. Jean, maintenant, va signer. Il est là pour signer son livre, si vous voulez. Si vous avez des livres à faire signer, c'est maintenant. Merci encore.